Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charline.
On dit c'est super, aujourd'hui on reçoit l'acteur Grégory Montel.
Bernard Montiel, Vidéogag.
Ah ouais, ça. Non, l'acteur de 10% en douille.
Ah, super série sur les agents,
voilà,
oh,
voilà.
Oui, je vois, mais c'est le plus jeune là, qui est toujours malmené par le patron.
Oui, c'est lui, oui.
Bah, on va essayer de le soutenir. Parce
ah oui,
que,
hein, parce
non,
que,
parce que dans la saison 3, il a morflé.
Ah bah il est devenu tout gris, il avait mauvaise mine.
Eh oui, oh. En même temps, mais c'est bien fait pour lui quand même.
Oh là là.
Il a mis un râteau à Monica Bellucci.
Ah oh, bah ça, non, mais là, fallait aller très mal pour
faut
faire ça.
Faut être complètement inconscient.
Ah bah, ouais, non, ça a dû être terrible.
Mais même moi, sur mon lit de mort, je pense que j'aurais pas laissé passer ça.
Bon, Alex, c'est son personnage, quoi. C'est
non, mais c'est à Monica, moi, que je pense.
Non, mais c'est Grégory Montel qu'on reçoit, c'est pas son personnage en 10%.
Prendre un râteau par un kéké du Sud, non, mais. Et tout ça découlait en fait de son histoire avec l'autre comédienne.
Non, hein, mais ça, ça suffit, Alex. Il a pas fait que 10% quand même.
Non, hein. Oh, oui, oui, ok, là, il a joué dans pas mal de films, j'ai entendu.
Ah oui,
dire
dans
ça.
Les Chatouilles récemment.
Voilà.
Et il a même fait du one-man show.
Ouais, bah son meilleur sketch, c'était le râteau à Monica.
Mais,
parce que.
Non, Grégory Montel, oui, je te parle. Son spectacle, il s'appelait Si tu reviens, j'annule tout.
Ah, c'est un bon titre, comme nous.
Parce qu'on avait le même.
Non, parce qu'elle reviendra pas.
Qui ça, Cécilia?
Bah, Monica!
Non, mais j'ai l'impression que tu t'en remets pas là. Hein.
Mais déjà, moi, je m'en remets pas. Mais imagine lui!
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up Publique et par conséquent une émission qui crée de la dette. Voici les trois informations qui vont faire chuter le PIB de la France. Avec le sourire. Le Pass Culture est lancé depuis une semaine dans 5 départements pour que les jeunes découvrent les activités culturelles et artistiques près de chez eux. Il bénéficie d'un budget de 500 euros. Une manière aussi de réaffirmer que la culture, ça ne se passe pas qu'à Paris.
Moi, eh bien, je suis la directrice du musée Ducharnois, qui est l'unique musée au monde de porcelaine animalière.
Voilà, à découvrir donc. Et le réchauffement médiatique, alors? Est-ce qu'avec la viralité des informations, où il suffit d'un clic pour partager, on risque la surchauffe médiatique, voire l'intoxication mentale collective? Attention, ça glisse sur les autoroutes de l'info.
Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite!
La liste des récompenses aux Oscars et celle des nominations cette année nous indique que la transformation physique des acteurs et des actrices est un sérieux avantage pour être récompensé. La prise de poids, le mimétisme avec un personnage ayant existé et comment faire entrer en soi le personnage.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
C'est une technique, comme une autre. Lui, il entrera au Panthéon de la blague avec son cortège de
bras. J'espère.
Alex Vizorek.
Bonjour Charline Velounaker. Eh bien, ce vendredi, très belle équipe à 17h20, celui dont on est certain qu'il aime le cinéma, mais dont on doute encore un peu que l'inverse soit vrai. C'est Thomas Croisière, bonjour.
Je vous rappelle que j'ai gagné à l'Alpe d'Huez il y a 3 semaines dans mon rôle formidable de Pascal, l'homme de l'air d'autoroute.
En tant que producteur, donc de quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Bah, je vais vous parler de notre invité, bien évidemment, avec son film.
Très bien, 17h30, celle qui aime les morts. Mais là, on est à peu près certain que l'inverse est improbable. Bonjour Christine Gonzalez.
Bonjour, ce soir se tiendront les victoires de la musique de l'au-delà avec pour grand favori, Corbier du Club Dorothée.
Si les profs des écoles sont pédophiles, mon bébé, c'est pour que le monopole reste pas chez les curés.
Je crois que c'est le co-auteur de Frédéric Promet.
Il était plus drôle qu'on l'imagine. À 17h40, celle qui aime les livres et le vin blanc, et l'un des deux lui rend vraiment bien, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
D'un roman anglais merveilleux où ça commence et les deux protagonistes sont tout nus.
Très bien, bon choix. Et enfin à 17h55, celui qui n'aime pas ses chansons, ce qui lui fait en général un point commun avec les gens dont il parle dans ses chansons, c'est Frédéric Promet qui viendra terminer l'émission musique.
Et voici celui qui va enjailler notre open space. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Ah, je suis Grégory Montel, bonjour.
Oui, oui.
Bonsoir, pardon.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Grégory Montel. On est très heureux de vous recevoir. Alors, vous ne donnez pas que des râteaux à Monica Bellucci dans 10% et votre personnage de Gabriel Sarda qui vous a révélé au grand public. On peut vous voir en salle mercredi prochain dans un film, un premier film, le film de Christophe Lemann qui s'intitule « Moi, maman, ma mère et moi ».
Oui.
C'est l'histoire d'une fratrie. Vous êtes deux garçons, deux filles. Vous jouez aux côtés de Olivia Côte, Philippe Rebaud et Lolita Chama. L'histoire d'une fratrie, donc ils sont quatre et ils se retrouvent dans la maison de leur mère.
maman qui est morte il y a un mois. Une grande maison à la campagne, avec ses questions, que faire de la maison par exemple, de l'héritage. Alors pour votre personnage, Benoît, c'est de revenir aussi depuis 17 ans dans cette maison et dans votre chambre d'ado. Et retrouver un secret que votre mère vous avait confié, enfant, et que vous aviez enfoui. C'est une comédie. Au départ, un sujet un peu grave, évidemment. C'est une comédie qui tient beaucoup sur votre personnage, parce que dans la fratrie, c'est vous qui êtes le plus décalé. Vous avez raté l'enterrement parce que vous étiez resté coincé dans l'Eurostar.
Exactement, qui est ça.
La première scène du film, je vous laisse la dévoiler ou pas, montre tout à fait qu'on va tout de suite arriver avec vous dans un décalage par rapport à cette fratrie. De quelle manière, vous, justement, votre personnage permet d'amener ce ressort de comédie dans l'histoire et d'être de quelle manière vous êtes à côté de vos pompes?
Déjà
comment il fait pour être comme ça?
Non, mais je pense que moi, maman, ma mère et moi, je pense que c'est ce que ressent profondément ce personnage là c'est-à-dire qu'il a quand même un souci assez important de deep et qui n'est toujours pas réglé. Donc ça, déjà, c'est un premier ressort de comédie. Je pense que le deuxième ressort de comédie, ou le deuxième ressort en tout court, c'est celui qui doit vraiment rentrer dans la vie d'adulte, quoi. C'est-à-dire, c'est celui qui arrive, il a loupé l'enterrement de maman, il l'a probablement fait, c'est probablement inconscient, et c'est cette idée-là que, en fait, le fait qu'il va ranger sa chambre, c'est un peu ranger son passé et mettre, faire en sorte que son futur soit un peu plus propre. Voilà, c'est ça un peu l'allégorie, plus ou moins, entre guillemets. Il va ranger sa chambre. C'est l'histoire de quelqu'un qui va ranger sa chambre. Et voilà, enfin, c'est pas très très vendeur. Mais si, c'est vendeur.
Mais si,
c'est vendeur. Parce que dans une chambre, il y a tout un tas de trucs. Il y a notamment des livres de cul, notamment. Et ça, c'est vendeur. Et ça, c'est vendeur.
Non, c'est par là que vous nous...
Désolé, c'est parce que vous m'avez dit que je pouvais dire le mot cul.
Ah bah, c'est autorisé. On a des primes quand on le cite.
Grégory Montel, c'est vrai, c'est par ce biais qu'on s'identifie complètement et qu'on rentre dans l'histoire et qu'on rentre dans votre fratrie. C'est qu'il retrouve sa chambre d'ado telle qu'il l'avait laissée, c'est-à-dire dans un foutoir pas possible. Il retrouve des indices qui vont lui faire rejaillir des souvenirs. Cette chambre qu'il n'arrive pas à ranger fait qu'il va rentrer en conflit immédiat avec sa fratrie. Et puis, il y a aussi quelque chose de très particulier dans ce film. C'est que ça s'intitule « Moi, maman, ma mère et moi » parce que il y a un élément comme un peu surnaturel.
Ah bah oui, hein.
C'est-à-dire que votre maman est sur votre dos, quasiment physiquement. Ce qui amène...
C'est le côté
fantaisie, quoi.
Mais elle arrive très très tôt, donc on peut en parler. Enfin, le spectre de la maman vient lui annoncer justement une chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce garçon-là, ce Benoît... Parce qu'en fait, Benoît a toujours été interprété dans ses films par Christophe Lemann, qui est le réalisateur du film. Il a fait plein de courts-métrages dans lesquels il interprétait toujours Benoît. Et comme il avait décidé d'arrêter de jouer au cinéma, il a cherché son Benoît, donc il fallait qu'il trouve son Benoît, un mec un peu comme ça, un peu... Tu vois, qui plane un peu, qui a un peu du mal à poser son pied par terre et à rester ancré, à trouver ses racines, etc. Et du coup, je sais plus tout ce que je
voulais dire. Il trouve des fuites
il s'échappe. Et donc sa maman lui apparaît vraiment physiquement et le charge de livrer un secret très important pour la famille. Qu'il a su et qu'il ne sait plus, qu'il a oublié.
Qui est l'intrigue, notamment du film,
oui, qui est une comédie.
Et la relation père-fille, elle est très souvent mise en scène. Oui. Il y a un peu un côté passionnel, la fille qui veut l'inverse de son père, la fille qui cherche son père dans tous les hommes et tout. La relation mère-fils, elle est quand même moins souvent mise en scène et elle est tout aussi complexe.
Psychose. Psychose, j'imagine.
C'est vrai que psychose, c'est un mauvais exemple.
Ouais. Ah, je suis désolé de vous contrarier.
Non, mais
mais quand même, la relation mère-fils, on la voit souvent quand même dans le cinéma, je veux dire, et pas seulement dans les comédies avec la maman juive, etc. Tout ça, ça existe quand même très très fort, quoi. C'est un ressort qu'on connaît, mais en fait, il est inépuisable, en vérité.
Et pour revenir à votre personnage et à vous, Grégory Montel, avec votre personnage de Benoît, vous jouez très très bien le gars à côté de ses pompes. on est tenté de faire un parallèle avec...
C'est une spécialité de la maison.
On est tenté de faire un parallèle avec votre personnage de 10%, parce que ça pourrait être Gabriel Sarda, qui a un pépin familial et qui retrouve sa fratrie. Ouais. Et dans la mesure où dans la saison 3, votre personnage se développe beaucoup avec un côté très à côté de ses pompes.
Ouais.
Là, c'est pas le même personnage du tout, mais il y a ce côté-là que vous jouez très bien, parce que c'est pas facile à jouer en comédie, ça, le mettre complètement à côté de ses pompes.
Ouais, non, je sais pas, mais peut-être parce que j'ai trouvé une solution assez pratique, hein, pour la comédie, c'est que j'essaye de faire en sorte d'être le plus moi-même, quoi. Non, mais c'est vrai, vous avez parlé de la transformation physique et du jeu.
On va y venir, on aura l'occasion d'y revenir si vous voulez.
Je suis pas un grand spécialiste. Non, mais si vous voulez, je pense que c'est bien de jouer avec ce qu'on est.
Oui, il y a Daniel Day-Lewis et il y a vous, quoi.
Un petit peu, voilà, c'est ça. Voilà, moi, je finirai pas Bottier en Italie.
C'était Pierre Richard sur les bords.
Mais moi je trouve ça formidable, moi Pierre Richard.
Mais Jean Gabin aussi, il jouait toujours Jean Gabin.
Mais je crois.
Et c'est Jean Gabin.
Je crois. Non mais je crois que vraiment les acteurs, on en parlera tout à l'heure, mais je crois que vraiment les acteurs français, on aime bien jouer avec ce qu'on est et ça marche.
Mais ça vous va très très bien. D'ailleurs, ça donne tout son sel au film Moi, maman, ma mère et moi de Christophe Lemann qui sort en salle mercredi prochain. Grégory Montel est avec nous jusqu'à 18h et il est là à 100%.
I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Inter par Jupiter où il est 17h21 à Nozay et à Nort-sur-Erdre. C'est en Loire-Atlantique. C'est là où vous avez tourné le film Moi, maman, ma mère et moi de Christophe Lemann et que vous êtes allé présenter là-bas d'ailleurs.
Oui, j'embrasse janvier. Tout le monde à Nort-sur-Erdre, en particulier Fabrice.
Eh bien voilà, comme ça femme. C'est passé. C'est en salle mercredi prochain et pour entourer Grégory Montel.
Déjà Thomas Croisière qui va en parler, autant vous dire que le succès d'un long métrage dépend fort de ce qui va arriver dans les minutes qui suivent. Christine Gonzalez sort en connexion avec l'au-delà et Juliette Arnoux nous présentera un livre merveilleux.
Bien sûr, et le destin de la formation
est entre nos mains.
Dépend aussi de ce qui suit.
On peut continuer encore un peu, on a jusqu'à quelle heure?
Le journal de presque 17h17.
C'est l'heure du perniflard.
Et on commence par les titres.
Pour les européennes, Benoît Hamon propose une votation pour une liste d'union.
Voilà, après ne pas avoir rejoint son propre parti, Benoît Hamon va plus loin. Il n'appelle même pas à voter pour son parti. Benoît Hamon, un homme, une ambition.
Selon le Canard enchaîné, Rachida Dati serait partie en guerre contre ceux qui ne la soutiennent pas assez à son goût pour les élections européennes.
Oui, c'est marrant, quitte à faire la guerre, moi je la voyais plutôt faire la guerre aux pointes sèches et aux cheveux cassants, Rachida Dati.
Et les brèves.
Oui, moi j'ai fait la guerre à tous les opposants des brèves, à commencer par vous, Charlie Zanonaté.
Démarrons par l'événement politique de la semaine. Attention.
L'association Improbable nous a été proposée dans une vidéo lapidaire sur Twitter.
Doc Gynéco, sang forgé. Aux européennes, chiche.
La toute belle équipe Doc Gynéco et Sonne Forget, député qui a quitté La République En Marche récemment.
À deux, ils ont décrété qu'ils souhaitaient monter une liste aux européennes en s'associant à Éric Drouet.
Voilà.
Et les deux déclarent « Nous sommes l'avenir ».
Voilà, hein, comme quoi les Gilets jaunes ont raison d'avoir peur de l'avenir. Si ces deux-là sont l'avenir de quelque chose, c'est de leur dealer, a priori.
C'est vrai que ce rapprochement est improbable.
Oui, j'avoue, hein, je pense que Doc Gynéco trouve que Joachim Sonneforget est l'homme politique le plus cohérent qu'il ait rencontré depuis Nicolas Sarkozy, c'est vous dire.
Oui. Gilets jaunes, encore, oui. De nouveaux recours contre les LBD ont été déposés au Conseil d'État.
Et c'est vrai que la dangerosité des flashballs est évidente, je dirais même que ça crève les yeux.
International, aux États-Unis, les trottinettes électriques ont fait plus de 1500 blessés depuis la fin 2017.
Oui, en même temps, une trottinette, c'est pas fait pour supporter 300 kilos. Salut les Américains.
Écologie, selon une étude européenne, les plus pauvres et les plus vulnérables sont aussi les plus exposés à la pollution.
Oui, les pauvres, ils respirent plus mal, ils mangent plus mal, ils se soignent plus mal, et je comprends mieux pourquoi les gens disent que le capitalisme, c'est le seul système capable d'éradiquer les pauvres.
France, à présent, oui. Un militant antinataliste attaque ses parents en justice pour l'avoir mis au monde sans son consentement.
Et on ne va pas juger. À la place d'Alexandre Balkany, on ferait peut-être pareil.
C'est vrai. Sport, avec le Super Bowl 2019, deux pom-pom boys danseront pour la première fois lors de la finale.
Oui, les organisateurs hésitent à leur renommer le Super Bowls.
Oh là là.
C'est raffiné.
Oui, mais attends, vous avez aimé celle-là, vous allez adorer la suivante.
Très bien, attention. Rugby, deux points. Pour son match contre le Biarritz Olympique, voilà. Le club de Carcassonne va être sponsorisé par Jackie et Michel.
Et si avec ça, on tire pas entre les poteaux.
Merci.
Merci,
merci
qui ?
Merci,
merci. Non, pardon.
De brève, vous foutez le camp.
Je dirais un titre de Jackie et Michel, pardon.
Oui,
autant
c'est
pour
ça,
moi. Elle se fait arnaquer de 6000 euros, escroquée par des malfaiteurs se faisant passer pour le chanteur Amir sur les réseaux sociaux. Se faire passer pour un mec qui se fait passer pour un chanteur, c'est de l'escroquerie au carré.
Allez, la dernière.
Et la dernière, ça va amuser pas mal de monde. Un zoo anglais a eu l'idée un peu farfelue pour la Saint-Valentin, qui arrive bientôt, contre 1,70 euros, vous pouvez donner le prénom de votre ex à un cafard. Et mon petit doigt me dit qu'il y en a au moins deux qui vont s'appeler François Hollande.
17h25 sur France Inter.
Bon, tout ça c'est vrai.
Oui,
c'est l'information.
Ah oui. Joachim Sonneforget et Doc Gynéco.
On va suivre de près. Je pense que ça pourrait nous faire des semaines à venir.
Ils rejoignent donc Brigitte Bardot et Francis Lalanne sur les listes. C'est bien l'Europe.
Bah, si on peut les envoyer loin, c'est déjà bien.
Je ne sais pas comment on va expliquer ça aux Allemands et aux Polonais. Mais bon. Alors, reprenons-nous et parlons un petit peu de culture avec Grégory Montel. Le Pass Culture est testé depuis une semaine dans 5 départements. Il y a le Bas-Rhin, le Finistère, la Guyane, l'Hérault et la Seine-Saint-Denis. Et donc pour une fois, il n'y a pas Paris dedans. Et tiens bon, on progresse. Le Pass Culture, c'est un budget de 500 euros disponible pour une appli, sur une appli pour que les jeunes profitent des activités culturelles et artistiques qui se passent tout près de chez eux.
Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise. Avant tout, vous devez savoir que les premiers ateliers de pantoufles ont vu le jour dans notre belle région de Charente entre 1880 et 1910.
Un extrait de Nos jours heureux, le film de Nakache et Toledano. Donc ce Pass Culture, il permet aux jeunes un budget, un crédit pour aller soit suivre des cours, soit aller dans des lieux culturels près de chez eux. Vous, Grégory Montel, vous venez de Digne-les-Bains.
Ah oui.
Est-ce que vous rappelez qu'est-ce qu'on peut faire à Digne-les-Bains ou qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit? La culture de proximité.
Attention. On peut faire plein de choses à Digne-les-Bains. Déjà, primo, on fait plein de choses. Déjà, on fait beaucoup de sport à Digne-les-Bains.
On considère que c'est de la culture? Non, c'est une vraie question.
Non, clairement, le sport n'est pas de la culture.
Ça peut en être.
Culturisme. Je demande.
Mais ce que je veux dire, parce que ça, on peut faire plein de sports, parce que c'est déjà pas mal. Quoi. Mm-hmm. Mais en culture, on peut aller. voir des spectacles. Mais généralement, quand on va voir des spectacles dans ces lieux-là, on va voir des spectacles dans des salles qui sont pas forcément adaptées. Avec, enfin moi, j'en rappelle, j'ai joué une pièce de théâtre et anecdote très très vite fait. Bon, la pièce de théâtre, il y avait pas de, tu sais, il y avait pas de truc pour rejoindre cour et jardin, d'accord. Donc nous, on jouait en février et en fait, écoute bien, ça se passait, ça se passait du vice à la racine, elle s'appelait la pièce. Et donc ça se passait dans une prison. Et à un moment donné, il fallait qu'on sorte d'un côté et qu'on rentre de l'autre. Sauf qu'on ne pouvait pas passer de cour à jardin, on était obligé de sortir. Donc de sortir du théâtre. Donc d'ouvrir la porte du théâtre, de courir torse nu, parce qu'on était torse nu. En février, il faisait super froid, de rentrer de l'autre côté. Et ça a marché deux soirs, sauf que le troisième soir, le régisseur avait fermé la porte. Donc tu vois, donc on peut effectivement faire des spectacles, aller voir des spectacles, aller au cinéma, il y a un super beau cinéma à Digne, etc.
Vous êtes près d'Avignon aussi?
On est, ouais, enfin 2h30 de route quand même.
Ah, non, voilà.
Et oui, non.
Digne-les-Bains, oui.
Non, c'est entre Nice et Avignon, je pensais que c'était.
Et voilà, donc on peut voir des trucs, mais c'est jamais dans les bonnes conditions, et par conséquent, c'est mal subventionné, parce que c'est pas les bonnes conditions. Donc c'est mal subventionné par la DRAC, par le. Et du coup, c'est pas aguichant, quoi. Ouais.
Donc on espère un cercle vertueux, si avec ce pass, les jeunes vont investir les lieux de culture, il y a de la demande et l'offre. Ouais. Et justement, vous avez pris les devants. Dans ce souci de fracture entre les régions et Paris, de toujours se dire c'est à Paris qu'il se passe plein de choses, vous êtes dit non, zut, moi, vous avez fait l'acquisition d'un lieu culturel dans votre ville natale.
Ouais, on a acheté avec une association qu'on a créée, on a acheté le vieux cinéma qui était dans le centre de la ville. Mais c'est tout autant un truc pour dire que tout ne se passe pas à Paris, mais c'est aussi un truc pour dire que tout ne se passe pas en zone commerciale, par exemple.
Ah oui.
C'est ça aussi notre...
Réinvestir le centre-ville.
Vraiment réinvestir à la fois les territoires et réinvestir les centres-villes, mais vraiment les centres de la cité, là où la vie existe en vrai, quoi, là où on n'est pas là pour acheter, consommer, etc.
Et qu'est-ce que vous voulez faire de ce lieu?
Bah alors en fait c'est un lieu, c'est un ancien cinéma et pour vous dire par exemple ça fait 1500 m², on l'a payé 25 000 €. Les murs, je parle. Donc, vous imaginez. Donc on peut faire plein de trucs. Ça fait 1500 m². Donc là, on va y faire une salle de concert avant la fin de l'année. Ensuite, on va y faire une salle de théâtre qui va aussi devenir un lieu pour projeter du cinéma plutôt art et essai entre guillemets, mais aussi faire venir des concerts de jazz, etc. L'idée, c'est de faire venir tout parce qu'il faut pas se spécialiser, quoi. Il faut faire. Et surtout, et c'est un truc aussi qui a du mal encore à arriver en région, c'est que nos lieux culturels doivent être des lieux de vie. Tu vois, des lieux de vie où il se passe plein de trucs, où on vient à la fois faire du yoga et en même temps prendre des cours de théâtre.
Boire un coup. Parce que parfois, moi, manger. Je vais en province et parfois, il n'y a pas de bar après.
Non.
Et c'est bête parce que c'est le moment où on rencontre les gens.
Oui. Oui, c'est ça. C'est malheureusement, on dit un peu consommer la culture, c'est pas très beau, mais que la culture, ça va quelque chose. On dit que 1 € investi dans la culture rapporte, a priori, entre 3 et 7 €. Par exemple, à Avignon, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 5 €, quoi. Donc, c'est hyper important et que le PIB est énorme, le PIB.
Et pour terminer sur ce sujet, Grégory Montel, si vous cherchez des financements, on peut aider votre assoce, elle s'appelle comment?
Alors, elle s'appelle les Potes of the Top. C'est un peu compliqué, mais parce que le lieu, il s'appelle le Top. Alors, l'ancien cinéma s'appelait le Top. On a gardé le Top, c'est génial.
Et voilà.
Et donc, ça s'appelle les Potes of the Top. On est sur Facebook, Potes of the Top. Alors, POTESOFTOP. Et on va lancer bientôt un crowdfunding. On est tous bénévoles, c'est hyper dur.
On viendra jouer chez vous.
On va liker la page sur Facebook.
On like la page sur Facebook, Potes of the Top.
Comme ça, tout le monde sera au courant. Ça se passe à Digne-les-Bains avec Grégory Montel.
Merci, je suis content que vous en ayez parlé.
Mais avec joie, c'est un tellement beau projet. Et justement, reparlons de vous, tiens, avec Thomas Croisière.
Par Jupiter présente.
Le cinéma
de Thomas Croisière.
Merci Grégory Montel de venir nous présenter Moi, Maman, Ma Mère et Moi, film dans lequel vous jouez Benoît, un fils ayant raté l'enterrement de sa mère pour cause d'Eurostar en retard. En même temps, Benoît, faut pas être bien malin pour ne pas savoir que l'Eurostar est toujours en retard. Et encore, dans votre malheur, vous avez de la chance parce que votre mère est morte avant le Brexit. Bref, lorsque Benoît, aidé de son frère et de ses deux sœurs, vide sa maison d'enfance pleine de souvenirs, il est subitement hanté par le fantôme de sa mère, jouée par la nécessaire Dominique Valadier. Dominique, qui me fit tellement rire chez Monsieur Cyclopède lorsqu'en incarnant la Vénus de Milo, elle répondit au petit prince venu lui demander « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». C'est malin, petit con. S'il avait vu moi, maman, ma mère et moi, Victor Hugo aurait pu écrire « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis ». Mais non, il ne l'a pas écrit. C'est, contrairement à ce que prétend Internet, une citation de carte de vœux. Lui a écrit « Les habits de deuil ont beau s'user et blanchir, le cœur reste noir ». C'est quand même beaucoup plus joli et on comprend mieux pourquoi une avenue et une station de métro portent son nom. Votre film est donc l'occasion pour moi de vous proposer mon top 4 fantômes au cinéma. Cinéma, mon top 4, cinéma, numéro 4.
On voit des gens qui sont morts.
Sixième sens de M. Night Shyamalan, de N. Sixième sens avec Bruce Willis. Le film dans lequel Alec Joel Osment voit des gens qui sont morts est sans doute un des meilleurs films à spoiler de l'histoire du cinéma.
Exactement.
Au siècle dernier, si vous vouliez détruire la vie de quelqu'un, il suffisait de lui dire avant qu'il aille voir Sixième Sens, tu sais en fait, Bruce Willis, il est mort dans le film. Mais il est mort dès le début, c'est un putain de dead people. C'est pour ça qu'il y a que le môme qui le voit. Et si t'aimais vraiment pas le gars, t'enchaînais sur « Et Kaiser Soze, c'est Kevin Spacey ». Et si t'étais pression, tu pouvais aussi dire « Et Kevin Spacey, dans 20 ans, il sera accusé d'avoir abusé de jeunes acteurs et ça mettra un terme à sa carrière ». 20 ans plus tard, j'ai le droit de spoiler Sixième Sens parce que si nos auditeurs avaient voulu le voir, ils avaient le temps. Il suffisait qu'ils arrêtent de binge-watcher leur série pour regarder un bon vieux classique. Mais non, ça les intéresse plus les gens, le cinéma. Sur Facebook, ils préfèrent demander « C'est le week-end, quelqu'un une série chambée à me conseiller ?» plutôt que « Hey, c'est samedi soir, quelqu'un une idée de bon film avec Christian Clavier ?» Résultat, ils préfèrent se taper des trucs qui durent 180 épisodes de trop plutôt que d'apporter leur contribution au grand débat national. Et à un moment, il faudra pas s'étonner si on se réveille dans un mauvais épisode de The Handmaid's. La servante écarlate. Remarquez, moi ça me dérange pas trop parce que je serai commandeur. Mais quand Charline se réveillera en deux Alex, Christine en deux Guillaume et qu'on pourra les gangbanger ou les énucléer en public, vous vous diriez peut-être, bon bah tiens, j'aurais peut-être dû regarder un peu moins de séries. Et tout ça pourquoi en plus? Pour qu'à la fin de la saison 2, deux Fred et son bébé soient sauvés. Et elle fait quoi de Fred? Elle y retourne pour faire une putain de saison 3. Non mais les scénaristes de ces trucs-là, c'est des criminels. Je suis sûr que comme les gars de Monsanto qui désherbent pas chez eux avec du Roundup, ils regardent pas leur série. Parce que si tu regardes La Casa des Papel, qui dure 22 épisodes, c'est-à-dire une journée entière de ta vie, une journée où t'aurais pu ramasser des déchets sur une plage océane, eh ben, tu peux pas sérieusement écrire alors qu'il est en train d'imprimer 2 milliards d'euros, qu'il a 67 otages sous sa surveillance et 8 braqueurs à piloter, dont son frère psychopathe. Le professeur va faire un tour et sera injoignable pendant 24 heures. Non mais vous êtes locaux les gars, completamente locaux. C'est pour ça que j'aime le cinéma et que j'ai aimé votre film Grégory, parce qu'il dure 1h25, qu'il a un début, un milieu, une fin et qu'à un moment, à aucun moment, il ne m'a pris pour un con. Il aborde avec sensibilité et sans sensiblerie le processus du deuil, ces moments où l'on doit affronter les fantômes du passé et les vivants du présent. Il nous montre avec justesse les cadavres que l'on ressort des placards après en avoir mis en terre. Il nous parle de famille, de secrets, de transmission, de refoulement, de nostalgie et d'héritage au sens propre comme au figuré. Esthétiquement, Christophe Lemann nous montre aussi la beauté du pays de la Loire, où avec vos frères et sœurs, interprétés par les formidables Olivia Côte, Lolita et Philippe Rebaud, vous vivez ce moment hors du temps, cotonneux et à fleur de peau que l'on a tous connu et que l'on connaîtra tous, ou en moins de jours qu'il ne faut pour regarder l'intégrale de Game of Thrones, on doit ranger 80 ans de vie. 3 jours, c'est le temps que la loi nous accorde pour ranger la vie de ses parents. La vie de quelqu'un que l'on a aimé sans lui dire assez et qui nous a aimé sans nous le dire toujours bien. Et si on gardera cette personne au fond du cœur jusqu'à ce qu'Alzheimer nous sépare, on ne pourra hélas plus jamais la serrer dans nos bras, sauf si on va la déterrer, mais c'est déconseillé et passible d'un an d'emprisonnement avec 15 000 euros d'amende. Alors, faisons la paix avec les morts, essayons même parfois de le faire de leur vivant, sauf si ce sont des auteurs de séries. Et quoi qu'il arrive, comme le raconte justement moi, maman, ma mère et moi, il n'est jamais trop tard pour solder ces histoires de famille, pour enfin pouvoir vivre pleinement la sienne.
Bravo.
Thomas Croisière.
C'est
merci.
Moi. Je vous en prie, Charline.
Vous avez magnifiquement décrit l'atmosphère du film, qui sort en salle mercredi prochain avec Grégory Montel. Allez, c'est Bachung.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche sèche. je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit, personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit, personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit, je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier.
Les Salines d'Alain Bachung dans le dernier album. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter et c'est Grégory Montel, notre invité. Et puis autour de la table, il y a
Thomas Crozière qui a bien parlé, Juliette Arnaud qui probablement va bien parler. Et là maintenant, qui va communiquer avec l'au-delà, c'est Christine Gonzalez.
C'est le grand rendez-vous annuel de la musique francophone. Ce soir se tiendra la 34e cérémonie des Victoires de la musique de l'au-delà, diffusée en direct sur France 2 et sur France Inter. Il vous reste encore quelques heures pour voter et soutenir votre mort préférée. Dans la catégorie chansons à texte, Pierre Desproges.
Où ça bobo le bébé, où ça bobo le bébé, bobo cucu le bébé, bobo cucu le bébé, bobo cucu le bébé, a pu bobo le bébé. A pu bobo.
Et pour vous remercier de voter pour lui, Desproges a un mot à vous adresser.
Vous tous qui écoutez là, vous allez mourir un jour.
Toujours dans la catégorie chansons à texte, Corbier.
Grand-père était plus qu'une ville, beaucoup plus qu'un département. Pour le décrire, c'est facile. Grand-père était un continent.
Dans la catégorie chansons qui donnent envie de croquer la vie à pleines dents, Jacky Sardou.
Recevoir des beignes sans que personne me plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. Sans être socialo, bah c'est pas rigolo. Et moi, j'en ai marre.
Votez pour elle, elle vous le rendra bien.
Mon cul, oui.
Dans la catégorie chansons féministes, Jean Marais.
Si tu veux me rendre heureux, ne parle pas. Ne parle pas, ou alors parle avec tes bras. Ah.
Pour Jean Marais, votez 4.
Qu'est-ce qui vous dit qu'il parle?
Je sens un élan d'amitié, d'estime qui me réchauffe.
Dans la catégorie chansons racistes.
Il était très rusé.
Carlos.
Il dit donc, bon, moi je suis un présario, et depuis sur toutes les radios. Bouge-t'en qui toujours, voilà, ça c'est beau, ça va décoincer la zigounette.
Dans la même catégorie, Bourville.
C'était une noire, une merveille. J'ai cru que c'était Zumba, ou alors Bamboula. Oui, mais elle ne s'appelait pas comme ça. Michine et la Poupou. C'était son nom de famille. Petit Michine et la Poupou.
Et enfin, dans la catégorie à mort, reprend la chanson d'un vivant, Colette chante Beyoncé. Et pour Colette, votez 7.
Il n'y a rien à ajouter à cela.
Rendez-vous donc avec la crème de l'au-delà. Et si vous tenez vraiment à mourir, il vous reste à regarder ce soir Les Vivants sur France 2 et sur France Inter.
Merci Christine Gonzalez.
C'est pas gentil alors que Angèle va tout gagner. C'est une Belge qui va gagner, je le sens.
Merci Christine, sur France Inter par Jupiter avec Grégory Montel, notre invité. Abordons cet autre sujet car il suffit d'un clic pour partager l'info. Il suffit de la retweeter aussi, alors parfois sans avoir lu l'article, juste sur la base d'un titre. Ce qui donne libre cours à nos impulsions plutôt qu'à notre réflexion. Et voilà qui provoque un réchauffement médiatique, une surchauffe, une surdose et une fonte dans la calotte critique.
Nos ordi, nos applis, nos gadgets, pas de réseau, pas de wifi, et tout s'arrête. J'attends un mail, je peux pas l'ouvrir. Je crois que je vais bientôt mourir.
Non, lui il est bien vivant, il n'est pas aux Victoires de la musique, mais il sera là tout à l'heure. Frédéric Fromet, bien sûr. C'est un article que nous avons trouvé sur le site du magazine Ouzbek Erika, qui s'intitule Le réchauffement médiatique. Alors on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, même nos messageries sur les téléphones, les WhatsApp ou les SMS, permettent d'envoyer des messages, par exemple, à 50 personnes d'un coup, qui, si elles se mettent toutes à répondre, captent évidemment toute votre attention. À cela ajoutons les fils Facebook, les fils Twitter, qu'on regarde éventuellement devant la télévision. Est-ce que vous avez parfois l'impression, Grégory Montel, d'être assailli ou de faire attention à ne pas être assailli par tout ça? Ah ben quelle est votre pratique à vous?
Ah ben moi, complètement. Je veux dire, j'ai pas Twitter. Mm-hmm. J'ai pas Instagram, j'ai Facebook parce que c'est bien pour communiquer pour le top, justement.
Pour votre association.
Non, parce que ça marche très bien, ça, pour le coup. Pour la pub par Facebook, ça marche assez bien. Et j'ai Messenger, par contre. Mais c'est monstrueusement chronophage, quoi.
Ouais.
C'est fou.
Donc vous avez peur de mettre le doigt dans l'engrenage?
De toute façon, je l'ai mis quand même, avec Facebook.
Justement, le fil Facebook, une fois que vous le voyez, est-ce que vous prenez pour argent comptant que c'est l'information? Parce qu'il y a parfois des vrais articles issus de vrais journaux importants, et puis parfois, c'est fantaisiste.
Mais bien sûr.
Et vous avez la critique de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cliquez dessus pour aller voir si cette info est récente?
Je l'ai fait, mais après ça donne lieu à des bagarres interposées, quoi. Parce que souvent t'as envie de répondre quand il y a une info qui est fausse, t'as envie de dire, excusez-moi, pardon, j'ai réfléchi deux secondes, à mon avis, ce que vous êtes en train de dire est faux, quoi. Et là, tu te fais allumer de façon assez sévère, quoi.
Je sais pas si vous êtes amis avec vos parents sur Facebook, moi je suis ami avec ma mère sur Facebook. Toutes les bêtises qu'elle peut relayer, je passe mon temps à la contacter en MP en disant, c'est une fake news.
Elle les envoie par mail, ma mère. En plus. Elle les par mail.
En fait, c'est les vieux le problème.
Mais non, parce qu'ils viennent de découvrir, oui. Et ils surkiffent, quoi, cette espèce de communion dans la communication, quoi.
C'est notamment que cette abondance fait que ça aide à la prolifération des fake news, parce que on en a beaucoup trop d'un coup, etc.
Mais j'ai la sensation, pardon de vous couper, la sensation que les plus jeunes, que ceux qui ont 12-13 ans, de plus en plus, certains commencent à prendre autre chose qu'un smartphone. J'en ai rencontré. Mm-hmm. Des jeunes un peu branchés parisiens, mais...
Prennent le monde?
Non, ils prennent un téléphone, tu sais, les 5110, quoi.
Ah, ou je sais mais pas, ça, là, c'était dealer.
Ok. Oh, 10 heures à 13 ans. Non, mais moi, j'ai l'impression que... Ouais. J'ai la sensation que ça a un peu s'est calmé.
Peut-être qu'on est allé tellement loin dans cette surchauffe médiatique que, on a testé, on s'est rendu compte qu'on allait peut-être un peu trop loin et que tout ça va s'auto-réguler.
C'est l'esprit critique qui doit s'adapter. D'où le Gorafi ou Nordpress qui a voulu montrer justement qu'on pouvait prendre les gens pour des idiots. Et normalement, ça devrait faire dire aux gens, ne me prenez plus pour un idiot.
Ouais, mais allez savoir, parce qu'il y en a quand même qui prennent le Gorafi pour argent comptant.
Ma mère.
Christine Boudin.
Quels sont les vecteurs par lesquels vous vous informez? Est-ce que vous êtes radio, presse écrite, télé?
Je suis très radio et très presse écrite. Ah, je suis très France Inter.
Aïe, aïe, aïe. Entre 17h et 18h du lundi au vendredi.
Malheureusement, c'est pas
beaucoup de fake news à cette heure-là.
Non, mais
je vous jure, avant je connais toutes les émissions de la matinée, mais par cœur, leur nom, les présentateurs, tout ça. Je ne me pas.
Non, non, vous inquiétez pas. Donc l'information traditionnelle.
Oui.
Et l'utilisation de Facebook pour votre association. Et de, voilà.
Voilà. J'arrête de regarder, parce qu'après, évidemment, il y a tous les copains qui montrent leurs pieds au bord de la plage et tout ça, c'est assez gonflant.
C'est leurs pieds, vous avez de la chance.
Ouais. C'est pas les pieds de la mère de Thomas Croisière. On a bien noté. Grégory Montel avec nous, je vous renvoie à ce long article qui est assez touffu. Hein. Ne l'imprimez pas déjà, cet article de Becquerica, parce qu'on a fait l'erreur ce matin de l'imprimer.
Et on s'excuse auprès de la forêt amazonienne.
Exactement, voilà. Non mais alors, c'est un article fouillé, hein, donc c'est faux. Voilà, oui. Juliette Arnaud.
Alors, avec le roman du jour, on est en Angleterre au mois de mars et il fait beau et chaud. Et pourtant, le livre du jour n'est pas un livre de science-fiction. Nous sommes dans une chambre où deux jeunes gens viennent de faire l'amour. Leur intimité est évidente. Ils partagent une cigarette à la cool. Il est tout nu, elle est toute nue. La fenêtre de la chambre est ouverte sur le jardin et le soleil. Et pourtant, non. Le roman du jour n'est pas un roman d'amour. Le roman du jour s'appelle « Le dimanche des mères » et c'est un plaisir de lecture à épisode. Même si le roman est assez court, le lecteur met longtemps à savoir où il est et où est-ce qu'on l'emmène. Déjà, c'est quoi ce dimanche des mères? Eh ben, c'est une coutume anglaise surannée qui vient d'un temps où un jour par an, les domestiques des familles bourgeoises avaient un jour de congé pour aller voir leur maman. C'est bien de suivre. Merci Alex. J'ai bien écouté. Eh bien, la fille toute nue dans la piole dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ben c'est justement une domestique. Et c'est le dimanche des mères. Sauf que de maman, elle n'a pas. Elle est orpheline. Pire, elle est champise. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est le féminin de champi, un terme que nous connaissons en France grâce à Georges Sand et à son roman François le Champi. Le champi, la champi, c'est l'enfant qui a été conçu et trouvé dans les champs. Hein? Donc c'est vraiment pire que l'orphelin ou l'orpheline. Alors là, vous êtes en train de vous dire, oh là là, une typique sordide histoire d'orpheline méritante, mais ceci n'est pas un roman de Dickens. Le livre se déroule en 24, Dickens est mort en 70, c'est pas possible. Bisous Charlie. Je récapitule. Jane, la jeune bonne champise, est dans le lit d'un jeune homme, tout le monde est nu, sauf que le jeune homme se rhabille, parce qu'il a rendez-vous avec sa fiancée. Quelle est ? Il couche avec une fille qui n'est pas sa fiancée. Ben ouais, la vie est laide, parfois. Donc, sa fiancée, c'est une jeune fille de bonne famille, comme lui, et pas une champise, comme Jane. Et pourtant, ce livre n'est pas non plus le récit de la grande scène du 4 que Jane pourrait jouer au jeune homme pour le retenir. Parce que Jane, toute nue avec le cendrier sur le ventre, a peut-être de la peine, mais, et je cite l'auteur, elle n'appartenait pas à ce beau monde où l'on jouait de tels drames. Là, le jeune homme quitte la chambre. Nous, lecteurs, nous ne quittons pas pour autant l'ambiance langoureuse. La fille, nue, domestique, se déambule dans la maison désertée. Elle est seule, les bonnes et les parents du jeune homme ne sont pas là. Dimanche des mères. Alors elle, la champise, toute nue, visite la maison de son amant. Et elle continue, toute nue, jusque dans la bibliothèque. Il y en a une dans chaque maison bourgeoise de l'époque. Cette pièce où flotte un genre de prière de ne pas déranger d'un sanctuaire masculin. Oui, à l'époque, la lecture, c'était pour les bons hommes. Une fille toute nue parmi les livres, que toute champise qu'elle soit, elle connaît très bien, son patron à elle l'a autorisée à emprunter les siens. Il a tiqué lorsqu'elle est arrivée à l'île au trésor de Stevenson. L'île au trésor? Pourquoi Dia voulez-vous lire ça, Jane? Voyons, c'est pour les garçons. Eh bien, Jane, elle veut, parce que dans ces livres-là, les livres comme L'île au trésor, il y a un mot qui revient tout le temps et c'est le mot aventure. Bref, t'es là, lecteur, lectrice, t'es moite de langueur avec Jane, quand tout à coup, dans le livre, arrive la phrase suivante. Jamais il n'y avait eu un jour comme celui-ci, jamais il ne pourrait revenir. Là, tu te raidis et tu penses, c'est-à-dire... Et là, bim, page 91, tu te ramasses un uppercut mémorable, un switch génial, mais pas frine, fino, mais pas bêtement spectaculaire, le genre de piège dont raffolent les lecteurs, spécialité des auteurs talentueux, qui métamorphose encore une fois ce que tu croyais que tu lisais. La destinée future de Jane se joue là, page 91, Jane va se rhabiller, quitter la maison de son amant, et plus tard, bien plus tard, deviendra... Ah, merde, mon temps est écoulé, c'est dommage.
Oh non.
Merci, bisous, merci.
Qu'est-ce qu'on doit lire alors pour savoir?
Alors, vous lirez le Dimanche des mères de Graham Swift. C'est à la page 91 que ça switch. Et la traductrice est Marie-Odile Fortier-Mazek.
Merci. Et dans quelle édition? On dirait que c'est du poche.
Ben, c'est pas cher. Folio. C'est chez Folio.
Ah, bah voilà. C'est très bien. Merci. Bon,
en même temps, c'est un petit livre. Hein.
Ouais. Juliette Arnaud, merci beaucoup. Grégory Montel avec nous et abordons ce dernier sujet. Pour décrocher un Oscar, la transformation physique d'un acteur est, paraît-il, un avantage. L'acteur Christian Bale, par exemple, il est nommé pour la 4e fois aux Oscars, quasiment à chaque fois grâce à un rôle avec une grande transformation physique. Cette fois, il est nommé grâce à son interprétation du politicien Dick Cheney dans Vice. Des rôles spectaculaires dont il faut pouvoir se sortir physiquement ensuite, bien sûr.
Jean Dujardin. Donc le tournage est fini depuis 2 semaines et toujours comme ça. Et il doit enchaîner avec l'autre film.
C'est un cauchemar, les gars.
Mais il veut pas se laver ou se raser
Non, rien, rien.
À ce propos, Gabriel, je me demandais, ton nouveau style, c'est pour faire brancher ou t'as juste lâché l'affaire physiquement?
Arlette, c'est pas parce que t'es vieille que tu peux tout te permettre.
Ok, les gars, pardon, on peut rester focus là parce que moi j'ai un acteur en pleine Day-Lewis.
En pleine quoi?
Daniel Day-Lewis. L'acteur anglais qui travaille tellement ses rôles qu'après il peut plus en sortir.
C'est bien sûr un extrait de 10% où on a retrouvé votre personnage de Gabriel Sarda. C'est un article paru dans le Figaro qui fait ce constat. Ça existe des acteurs qui font une Daniel Day-Lewis comme dans le premier épisode de la saison 3 de 10% où Jean Dujardin n'arrive pas à sortir de son personnage.
Bah, Daniel Day-Lewis.
Ouais. Déjà, en 1.
Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Daniel Day-Lewis, c'est vrai l'histoire. Hein. Il est allé...
Après Gangs of New York, là, il est devenu boucher.
Il a pu sortir du truc, et puis sur l'autre film, dont je ne me rappelle plus le nom, il était parti, lui, faire des chaussures, vraiment, c'était vraiment le cas, il est parti faire des chaussures en Italie.
Ouais.
Mais je crois que ça arrive, hein. Après, moi, je pense que...
Ouais.
Ce que je veux dire.
Non, c'est les Américains
aussi. On connaît les acteurs. Hein. Ils ont inventé leur propre légende. Hein.
Par exemple, l'article nous dit que Emma Stone a déclaré que le port du corset dans La Favorite lui a déplacé plusieurs organes, mais lui a permis de compatir avec les femmes de l'époque. Donc, on est prêt à se déplacer des organes quand on est acteur pour rentrer dans son personnage.
Je suis prêt à décaler les siens.
Mais enfin.
Est-ce que Grégory Montel, est-ce que c'est un peu un fantasme d'acteur?
J'ai vu l'image en fait. Ça.
Est-ce que c'est un truc qu'on a envie d'éprouver, qu'on a envie d'essayer, une transformation physique pour un peu à l'américaine comme ça? Est-ce que c'est un fantasme que vous pourriez avoir?
Vous devriez prendre 30 kilos pour jouer un chef cuisinier, par exemple.
Non mais oui. Moi, je pense que oui. N'importe quel acteur a envie de le faire. Après, n'importe quel acteur le problème, c'est de bien le faire, quoi. Non, moi, je trouve que j'ai l'impression que quand je regarde les acteurs, maintenant, ça me fait un peu rigoler, quoi.
Ouais.
Ça me fait un peu marrer, maintenant. J'arrive plus trop à y croire. À Joaquin Phoenix, qui est probablement un très, très grand acteur, mais à la fin, il arrive, il a toujours boité, un œil en moins, ou machin, ça.
C'est un mec, le patron, un peu toi aussi. Ouais, c'est vrai.
Non, mais ça dit évidemment que ça fait rêver. Mais moi, j'ai déjà commencé à prendre des kilos pour mon prochain rôle.
Ouais, ouais. André Manoukian. Carlos. On ferait le biopic d'André Manoukian.
Oui, c'est une grosse demande.
Déjà un peu. Qui vient de rentrer dans ce studio?
Mais ne me dites pas que c'est Frédéric Fromet qui est derrière nous avec sa guitare et son casque. De quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, il paraît que les 26 personnes les plus riches détiennent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est dire combien les pauvres sont des nuls. Tu parles que c'est fortiche de dober sur les riches. C'est typique du clochard de jalouser leurs milliards. Le problème du mendiant, c'est qu'il est bien trop feignant pour aller au boulot, alors il chante dans le métro. Si j'avais le portefeuille de Bernard Arnault, je partirais en vacances dans des paradis fiscaux. Si j'avais compte en banque de Bettencourt, je partirais en vacances au moins au Luxembourg. Le pauvre est si petit qu'on le voit naître à Bobigny. S'il était un peu moins chèvre, il verrait le jour à Genève. S'il avait moins la flemme, il quitterait son HLM. Mais il profite du chaume dû pour gueuler comme un glandu. Si j'avais le portefeuille de Jeff Bezos, je partirais en vacances loin de tous les cassos. Si j'avais le portefeuille de Mark Zuckerberg, je partirais en vacances avec Michael Bloomberg. Le fauché a tous les torts, il ne fait aucun effort. Plutôt que d'aller à l'école, il préfère boire de l'alcool. Plutôt que des diplômes, il préfère avoir des mômes et brailler sans scrupule en se grattant les testicules. Si j'avais le portefeuille de Bill Gates, je partirais en vacances au moins jusqu'au States. Si j'avais le portefeuille de Warren Buffett, je partirais en vacances et pas au Kremlin Bicêtre. Faut pas être une fine gueule pour faire ses courses au Lidl. Faut avoir des goûts pourris pour s'habiller chez Tati. Faut pas être un champion pour dormir sous des cartons et faire chier les gens qui passent en parambulant les vents passent. Si j'avais le portefeuille de Carlos Slim, je partirais en vacances en yacht pour la frime. Si j'avais le portefeuille d'Amancio Ortega, je partirais en vacances loin de tous les cracras. Le pouilleux pas très malin qui glandouille sur les ronds-points en gilet jaune fluo prouve bien qu'il est pas beau. Les pas plus mélomanes soutenus par Francis Lalanne, mais il a trouvé une famille avec qui il s'est gosi. Si j'avais le portefeuille de mon banquier, je partirais en vacances en parachute doré. Si j'avais le portefeuille de mon patron. Je partirai en vacances avec mes stock options, mais j'ai pas une retraite chapeau comme François Pinault. Et j'irai en vacances seulement au bistrot, et comme je verrai jamais la vie en rose, je resterai tout seul avec ma cirrhose.
Merci Frédéric Fromé.
Merci.
Merci à tous.
Quel
les amis.
Quel recœur, ce premier. Hein.
Merci et merci au vent passe.
Oui, bien sûr.
Et merci à Grégory Montel d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci à vous.
C'est sympa parce que Laure Calamy nous en a dit beaucoup de mal. Et, humainement, vous êtes...
et je lui renvoie la parole.
Grégory Montel qu'on retrouve dans Moi, Maman, Ma Mère et Moi de Christophe Lemann qui sort en salle mercredi prochain où vous jouez aux côtés d'Olivia Côte, Philippe Rebaud et Lolita Chama. Merci beaucoup Juliette Arnaud, Christine Gonzalez, Thomas Croisière et fils, ainsi qu'Alex Vizarek. Merci à toute la belle équipe qui anime le bureau de Par Jupiter pour préparer une toute belle émission. Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud et Ramzi Assadi, assistée de notre nouvelle stagiaire Emma Ferret, bienvenue à elle. À la réalisation Anne-Sophie Ladonne, à la technique Julienne Delperou, Rémi Sistiaga et on embrasse aussi Claire Mussy qui travaille à l'administration.
Et Antoine Asdé qui a travaillé sur les sketchs cette semaine.
Très bien, et on se retrouve lundi bien sûr. Le mot de la fin à Grégory Montel.
Il y a les livres de cul notamment.
Que vous...
Désolé, hein, c'est parce que vous m'avez dit que... Je pouvais dire le mot cul.
Ah bah, c'est autorisé. On a des primes quand on le cite.